65. Malgré sa taille imposante, la Sagrada Familia, la basilique de la Sainte Famille, semble flotter au-dessus du sol, suspendue à ses flèches délicates qui fendent le ciel. Les tours ajourées de diverses hauteurs donnent à ce sanctuaire des airs de château de sable, érigé par quelques géants facétieux. Lorsqu'elle sera terminée, la plus haute de ses flèches atteindra une hauteur de 170 mètres, plus haut que le Washington Monument. À côté d'elle, la basilique Saint-Pierre à Rome paraîtra lilliputienne. Trois façades protègent l'édifice. À l'est, la façade de la Nativité s'élève tel un jardin suspendu, avec des festons de plantes, de fruits et d'animaux. Par contraste, la façade de la Passion, à l'ouest, est un squelette austère de pierre où les piliers inclinés évoquent des os de titans. Au sud, la façade de la Gloire, une fois terminée, se dressera au-dessus d'un enchevêtrement de démons, d'idoles païennes, en symbole d'ascension de l'âme, de vertu et de voie vers le paradis. Tout autour, un entrelac de tourelles, parois et contreforts, comme façonnés dans la boue, jaillissent de terre. Ainsi que l'a écrit un critique d'art, la base de la basilique ressemble à une souche d'arbres pourris où aurait poussé une colonie de champignons. En plus de l'iconographie religieuse, Gaudi avait inclus d'innombrables références au monde de la nature. Des tortues supportant des colonnes, des arbres poussant des façades et même des escargots géants et des grenouilles escaladant les parois. Malgré son extravagance extérieure, la véritable surprise que réserve la Sagrada Familia se trouve à l'intérieur, une fois passées ses portes. Les visiteurs restent bouche bée devant les piliers vertigineux de la nef, qui, dans un foisonnement de formes, s'élèvent comme autant d'arbres supportant une canopée d'albâtre à plus de 60 mètres de hauteur. Gaudi avait créé cette forêt de colonnes pour que le fidèle se sente en symbiose avec les anciens quand les forêts étaient les premières cathédrales du monde. Ce monument de l'art nouveau avait ses adorateurs comme ses détracteurs. Sensuel, spirituel et organique pour les uns, vulgaire, prétentieux et profane pour les autres. James Michener disait que c'était le bâtiment sérieux le plus farfelu de la planète. L'Architectural Review l'avait appelé le monstre sacré de Gaudi. Son financement lui aussi était une incongruité. Les travaux étaient réalisés uniquement grâce aux dons. La Sagrada Familia ne recevait aucune aide du Vatican ni de l'État. Malgré les années de vache maigre, les interruptions du chantier, l'Église montrait un acharnement darwinien à survivre, résistant à la mort de son créateur, à la guerre civile, aux attaques terroristes des anarchistes catalans et même aux dangereuses vibrations du métro tout proche. La Sagrada Familia était toujours vivante et continuait de grandir. Durant les dernières décennies, les finances de la basilique s'étaient notablement améliorées grâce aux 4 millions de touristes annuels qui payaient leur tribut pour visiter la merveille inachevée. Avec en ligne de mire une fin des travaux pour 2026, le centenaire de la mort de Gaudi, la basilique semblait vivre une seconde jeunesse. Ses flèches s'élevaient vers le ciel avec une urgence et un espoir juvénile. Le père Joaquim Beña, le recteur de la basilique et son plus vieux prêtre officiant, était un octogénaire jovial, avec des lunettes rondes et un visage tout aussi rond planté sur son petit corps. Le rêve de Beña, vivre suffisamment longtemps pour voir enfin son temple achevé. Ce soir, toutefois, le père Beña ne souriait pas. Il était resté longtemps derrière son ordinateur, médusé par les événements de Bilbao. Edmond Kirch assassiné. Ces trois derniers mois, il avait tissé, contre toute attente, une profonde amitié avec le futurologue. Le pourfendeur des religions était venu le trouver personnellement pour lui proposer une donation, un montant sans précédent. Pourquoi une telle offre ? S'était demandé Beña. Un coup de pub ? Voulait-il se mêler des travaux ? Mais en échange de son don, Kirch n'avait eu qu'une seule exigence. Beña n'en revenait pas. Rien d'autre ? C'est très important pour moi, sur un plan personnel, avait dit Kirsch. J'espère que vous me ferez l'honneur et la joie d'accepter mon offre. Par nature, Benya avait confiance dans les hommes, mais cette fois, n'était-ce pas pactisé avec le diable? Il avait scruté les yeux de Kirsch, tentant de percer ce mystère. Et d'un coup, il avait compris. Derrière l'assurance du futurologue, derrière ses airs de séducteur, il avait vu le désespoir. Ses orbites creuses, ce corps maigre ne trompait pas. Cela lui rappelait le temps du séminaire où il travaillait dans un hospice. Edmond Kirsch était malade. Était-ce la peur de la mort? Ce legs était-il une façon de s'attirer le pardon d'un dieu qu'il avait tant vilipendé et méprisé? Le plus preux dans la vie est toujours un agneau devant le trépas. Benya songeait à Saint Jean, qui avait consacré son existence à convaincre les mécréants de rejoindre la gloire de Jésus-Christ. Si un athée comme Kirsch désirait participer à l'achèvement de ce sanctuaire magnifique, il aurait été indigne d'un chrétien et cruel de rejeter sa requête.